Ivanhoé, chapitre 17. Malgré la prescription du joyeux ermite, prescription à laquelle le convive se rendit volontiers, il ne trouva pas que ce fût chose facile de mettre la harpe d'accord. « Il me semble, Saint-Père, dit le chevalier, qu'il manque une corde à l'instrument et que les autres ont été un peu endommagés. Ah, tu vois cela ? Répliqua l'ermite en levant pieusement les yeux au ciel. « Cela prouve que tu es maître dans l'art. C'est la faute du vin et de la débauche. J'ai dit à Alan Adal, le ménestrel du Nord, qu'il gâterait la harpe s'il la touchait après la 7e coupe. Mais il n'a pas voulu se soumettre. Ami, je bois à ton heureuse exécution. » Ce disant, il vida sa coupe avec une profonde gravité, secouant la tête en même temps, en signe de blâme de l'intempérance du ménestrel écossais. Sur ces entrefaites, le chevalier avait rajusté les cordes, et après un court prélude, il demanda à son hôte s'il voulait une sirvante dans la langue d'oc ou un lait dans la langue louis, ou enfin un virelet ou une ballade en simple langue anglaise. « Une ballade ! Une ballade ! » s'écria l'ermite. « Cela vaut mieux que tous les hocs et les ouïes de France. Je suis anglais de pied en cap, messire chevalier. Mon patron, Saint Dunstan, était anglais aussi. Il méprisait les hocs et les ouïes, comme il aurait méprisé les rognures de la griffe du diable. Rien que de l'anglais dans cette cellule. » En ce cas, reprit le chevalier, je vais essayer une ballade composée par un Saxon que j'ai connu en Terre Sainte. Il fut bientôt aisé de voir que, si le chevalier n'était pas un maître accompli dans l'art du ménestrel, son goût avait du moins été développé sous d'excellents professeurs. L'art lui avait du moins appris à adoucir les défauts d'une voix qui n'avait qu'une gamme peu étendue et qui était naturellement plutôt rude que douce. Bref, il avait fait tout ce que l'éducation pouvait faire pour suppléer à ses défectuosités naturelles. Son exécution aurait donc pu passer pour tout à fait respectable, auprès même d'un meilleur juge que l'ermite, surtout quand le chevalier introduisait dans ses modulations tantôt des notes vives, tantôt des notes mélancoliques, qui donnaient de la force et de l'énergie aux vers qu'il chantait. Le champion arriva de Palestine, ayant accompli des hauts faits chevaleresques, portant sur ses épaules la croix que les combats et les tempêtes avaient fanée. Chaque bosselure du bouclier battu était la preuve d'une bataille livrée. Et ainsi, sous le balcon de sa dame, il chanta comme le crépuscule tombait. « Joie, ma belle, regarde ton chevalier qui est revenu de la terre dorée lointaine. Il n'apporte pas de richesse, il n'en a pas besoin, sauf ses bonnes armes et son cheval de guerre, ses éperons pour charger l'ennemi, sa lance et son épieu pour le coucher à terre. Tels sont les trophées de ses peines et l'espoir d'un sourire de Teka. Joie, ma belle, dont le chevalier constant a été stimulé aux actes de prouesse par sa faveur. Elle ne restera pas inconnue, où se rencontre le cortège des brillants et des nobles. Le ménestrel chanteur et les héros diront « Observez cette jeune fille de beauté qui est là-bas. C'est elle pour les beaux yeux de laquelle fut gagné le champ de lys à Ascalon. » Observez bien son sourire, il a donné un tranchant à la lance, qui a fait 50 veuves de 50 épouses. Lorsque, malgré sa force et le charme de Mahoud, le sultan tomba dans les champs d'icônes. Vois-tu ses boucles, couleur de soleil, couvrant à moitié son cou de neige? Il n'est pas un seul fil d'or de sa chevelure qui n'ait coûté la vie à un païen. « Joie, ma belle, mon nom est inconnu, mais chacun de mes hauts faits doit honorer le sien. Donc, ouvre cette porte cruelle, noble dame. La rosée de la nuit tombe, l'heure s'avance. Habitué au souffle brûlant de la Syrie, le vent du nord me paraît aussi froid que la mort. Souffre que l'amour reconnaissant domine la modestie de la jeune fille, et accorde le bonheur à celui qui t'apporte la renommée. » Pendant que le chevalier chantait, l'ermite se comportait à peu près comme un critique de premier ordre se comporte de nos jours à un opéra nouveau. Il s'était couché sur son siège, les yeux à moitié fermés. Tantôt joignant ses mains et tournant ses pouces, il semblait absorbé dans une attention muette, et tantôt, balançant sa main étendue, il battait doucement la mesure. Dans une ou deux des cadences favorites, il prêta au chevalier l'appui de sa propre voix, lorsque celle du chevalier paraissait trop faible pour porter l'air aussi haut que l'eût désiré son goût supérieur. Lorsque la chanson fut terminée, l'anachorète déclara avec emphase qu'elle était bonne et bien chantée. « Et cependant, ajouta-t-il, il me semble que mon compatriote saxon a vécu assez longtemps avec les Normands pour adopter le ton de leurs airs larmoyants. Qui donc forçait cet honnête chevalier à quitter son pays ? À quoi pouvait-il s'attendre, si ce n'est à trouver sa maîtresse agréablement engagée avec un rival à son retour, et à voir sa sérénade, comme on l'appelle, aussi mal reçue que le miaulement d'un chat dans la gouttière ? Néanmoins, messire chevalier, je bois encore cette coupe à toi et au bonheur de tous les vrais amants. Je crains que tu ne sois pas du nombre. » ajouta-t-il en remarquant que le chevalier, dont la tête, grâce aux rasades répétées, commençait à s'échauffer, trempait son vin avec l'eau de la cruche. « Comment ? » demanda le chevalier. « Ne m'as-tu pas dit que cette eau venait de la fontaine de ton vénérable patron, Saint Dunstan ?»« Oui, vraiment, » répondit l'ermite. « Et il y baptisa des centaines de païens, mais jamais je n'ai entendu dire qu'il n'y eût seulement trempé sa lèvre. En ce monde, il faut que toute chose soit dirigée vers son propre emploi. Personne ne savait mieux que Saint Dunstan les prérogatives d'un joyeux frère. » Et là-dessus, il étendit la main vers la harpe et régala son hôte de cette chanson caractéristique, modulée sur le refrain d'une espèce de « Dewey Down » qui se rencontre dans une vieille chanson anglaise. Le carme des chaussées. « Je te donnerai, bonhomme, une année ou deux pour chercher à travers l'Europe, depuis l'Espagne jusqu'à Byzance, et tu ne trouveras jamais, quelque étendue que soit la revue, un homme aussi heureux que le carme des chaussées. » Le chevalier se lance dans la carrière pour sa dame, et le soir on le ramène à la maison, blessé. Je le confesse en hâte, sa dame ne désire aucune consolation sur la terre, sauf celle du carme des chaussées. Le monarque, bah, le prince a été connu pour avoir changé sa robe contre le froc et le capuchon. Mais lequel d'entre nous a jamais eu le vain désir de troquer contre une couronne le capuchon gris du carme des chaussées? Le carme est sorti, et partout où il est allé, il a trouvé bon accueil et bon gîte, il peut errer où il veut, il peut s'arrêter quand il est là, car la maison de chacun est ouverte au carme des chaussées. On l'attend à midi, et aucun rustre, jusqu'à ce qu'il arrive, ne peut profaner la stalle ou la soupe aux pruneaux, car la meilleure chair et la place près du feu sont le droit incontestable du carme des chaussées. Le soir, on l'attend et l'on chauffe le pâté, on ouvre le tonneau d'âle brune et on emplit le pot noir, et la brune femme souhaiterait son mari dans la cave plutôt qu'il manquât un doux lit au carme des chaussées. Fleurissent longtemps la sandale, la corde et la calotte, la terreur du diable et la foi dans le pape. Car cueillir les roses de la vie, sans être piqué par les épines, est accordé au seul carme des chaussées. « Par ma foi !» s'écria le chevalier. « Tu as chanté juste et vaillamment, en exaltant l'ordre auquel tu appartiens. Tu as parlé du diable, mon Saint-Clair. N'as-tu pas peur qu'il ne vienne te rendre visite pendant un de tes passe-temps rebelle au canon ?»«
Moi, rebelle au canon ?» répondit l'ermite. « Je repousse cette accusation, je la foule aux pieds. Je remplis mes devoirs de chapelain loyalement et sincèrement. deux messes par jour, une le matin, l'autre le soir, prime, compli, vêpres avec credo et pater.
Sauf les nuits où il fait clair de lune, à l'époque de la venaison,
répondit son convive.
Exceptis excipiendis, répliqua l'ermite, comme notre vieux prieur m'a enseigné de répondre quand des laïcs impertinents me demandent si j'observe toutes les minuties de mon ordre.
C'est vrai, Saint-Père, reprit le chevalier, mais le diable est très disposé à épier ces sortes d'oubli. Il va partout, ainsi que tu le sais, comme un lion rugissant.
Qu'il rugisse ici s'il ose le faire, dit le frère, et un bout de ma corde le fera rugir aussi haut que les pincettes de Saint Dunstan lui-même.
Jamais je n'ai craint un homme, quel qu'il fût, et je crains aussi peu le diable et ses diablotins. Saint Dunstan, Saint Dubric, Saint Winibald, Saint Winifred, Saint Swibert, Saint Willick, sans oublier Saint Thomas de Quint. Et mon pauvre mérite personnel aidant, je les défie tous, ces diables-là. Qu'ils viennent avec leurs queues courtes ou longues. Mais, pour vous confier un secret, jamais je ne parle, mon ami, de ces sortes de choses qu'après la prière du matin.
Il changea en conséquence de conversation. La gaieté des deux convives s'anima jusqu'à la folie. On échangea plus d'une chanson. Tout à coup, le réveillon fut interrompu par des coups bruyants et pressés frappés à la porte de l'ermitage. Mais pour expliquer la cause de cette interruption, il est urgent que nous reprenions les aventures d'un autre groupe de nos personnages. Car, pareil au vieil Arioste, nous ne nous piquons pas d'accompagner constamment aucun des personnages de notre drame.
Chapitre 18. Lorsque Cédric le Saxon vit son fils tomber évanoui dans la lice à Asby, son premier mouvement fut de donner des ordres pour qu'on le remît aux soins de ses serviteurs. Mais les mots s'arrêtèrent dans son gosier. Il ne put prendre sur lui de reconnaître, en présence d'une pareille assemblée, le fils qu'il avait renié et déshérité. Il recommanda toutefois à Oswald de le suivre des yeux et ordonna à cet écuyer de faire porter Ivanhoé par des serfs à Asby, dès que la foule se serait dispersée. Cependant, Oswald fut prévenu dans ce bon office. La foule se dispersa à la vérité, mais le chevalier n'était nulle part visible. Ce fut en vain que les chansons de Cédric chercha partout son jeune maître. Il vit l'endroit sanglant où le chevalier s'était affaissé tout à l'heure, mais quant à lui, il avait disparu. On eût dit que les fées l'avaient enlevé de là. Peut-être qu'Oswald, car les Saxons étaient très superstitieux, aurait pu adopter une pareille hypothèse pour expliquer la disparition d'Ivanhoé, s'il n'eût par hasard jeté les yeux sur une personne vêtue comme un écuyer et dans laquelle il reconnut les traits de son camarade Gert. Inquiet du sort de son maître et désespéré de sa subite disparition, le porcher travesti le cherchait partout et avait négligé dans cette recherche la discrétion dont dépendait sa propre sûreté. Oswald crut qu'il était de son devoir de s'assurer de Gert comme d'un fugitif dont son maître devait fixer le sort. Renouvelant ses questions relativement à la disparition d'Ivanhoé, le seul renseignement que les chansons put tirer des spectateurs fut que le chevalier avait été enlevé avec soin par des valets bien vêtus et placé dans une litière appartenant à une dame présente au tournoi, et qu'il avait été, immédiatement après, conduit hors de la foule. Muni de ce renseignement, Oswald résolut de retourner près de son maître chercher d'autres instructions, emmenant avec lui Gert, qu'il considérait en quelque sorte comme un déserteur du service de Cédric. Le Saxon avait été sous l'empire des inquiétudes les plus vives et les plus cuisantes à l'endroit de son fils, car la nature avait maintenu ses droits, en dépit du stoïcisme patriotique qui s'efforçait de la méconnaître.
mais il n'eut pas plus tôt appris qu'Ivanhoé se trouvait entre des mains compatissantes et probablement amies, que l'inquiétude paternelle, éveillée par le doute sur le sort de son fils, fit place de nouveau au sentiment de l'orgueil et de la colère, blessé de ce qu'il appelait la désobéissance finale de Wilfrid. « Qu'il suive sa route, dit-il, que cela guérisse les blessures auxquelles il s'est exposé. Il s'entend mieux à faire les tours de jongleur de la chevalerie normande qu'à soutenir la renommée et l'honneur de ses ancêtres anglais avec le glaive et la hache, ces bonnes vieilles armes de son pays. Si, pour soutenir l'honneur de ses ancêtres, dit Lady Rowena, qui était présente, il suffit d'être sage dans le conseil et brave dans l'exécution, d'être le plus hardi parmi les hardis et le plus doux parmi les doux, je ne connais d'autre voie que celle de son père qui lui refuse ses qualités.
Silence sur ce sujet, Lady Rowena. Je ne vous écoute pas, dit Cédric. Préparez-vous pour le festin du prince. Nous y avons été invités dans des circonstances honorables et avec une courtoisie inusitée, telle que les fiers Normands en ont rarement employé envers notre race depuis le fatal jour d'Hastings. Je veux y aller, ne fût-ce que pour montrer à ces orgueilleux Normands combien peu le sort d'un fils qui a pu vaincre les plus braves d'entre eux s'est touché un cœur saxon.
« Et moi, dit Lady Rowena, je n'irai pas là. Craignez, croyez-moi, que ce que vous prenez pour du courage et de la fermeté ne soit imputé à de la dureté de cœur. »
Restez donc chez vous, dame ingrate, répondit Cédric. C'est votre cœur qui est dur, puisqu'il sacrifie le bien-être d'un peuple opprimé à un vain attachement non légitimé. Je vais chercher le noble Athelstan et me rendre avec lui au banquet de Jean d'Anjou.
Il alla donc au banquet, dont nous avons déjà cité les principaux événements. Dès qu'ils eurent quitté le château, les tannes saxons montèrent à cheval, ainsi que leurs serviteurs, et ce fut pendant la confusion qu'amena ce départ que Cédric, pour la première fois, jeta les yeux sur le déserteur Gurt. Le noble saxon était revenu du banquet, ainsi que nous l'avons vu, d'humeur assez querelleuse, et il lui fallait un prétexte pour passer sa colère sur quelqu'un.
« Les fers !» dit-il. « Les fers ! Oswald, Hundibert, chiens et vilains, pourquoi laissez-vous le scélérat libre ?»
Sans oser l'excuser, les compagnons de Gurt le lièrent avec un licou comme la corde la plus facile à trouver. Il se soumit à l'opération sans oser murmurer, sauf que, lançant un regard de reproche à son maître, il dit « Cela m'arrive parce que j'ai aimé votre chair et votre sang mieux que moi-même. »
« À cheval et en route !» dit Cédric.
« Il est vraiment temps, » dit le noble Athelstan, « car si nous ne forçons pas le pas, les préparatifs de l'arrière-souper du digne abbé Waterhoff seront tout à fait perdus. » Les voyageurs, toutefois, firent tant de diligence qu'ils gagnèrent le monastère de Saint-Withold avant que le malheur appréhendé eût eu lieu. L'abbé lui-même, d'une ancienne lignée saxonne, reçut les nobles saxons avec la prodigue et abondante hospitalité de sa nation, qu'il prolongea jusqu'à une heure très avancée. Et ils ne quittèrent pas leur hôte religieux le lendemain matin sans avoir partagé avec lui une collation splendide. La cavalcade quittait la cour du monastère lorsqu'il survint un accident qui alarma quelque peu les Saxons, qui, de tous les peuples de l'Europe, étaient les plus adonnés à une observation superstitieuse des présages. Et c'est à leurs opinions que l'on peut reporter la plupart des idées sur ce sujet qui se retrouvent encore dans nos traditions populaires. Car les Normands, étant une race mêlée et plus instruite pour cette époque, avaient perdu la plupart des préjugés superstitieux que leurs ancêtres avaient apportés de la Scandinavie, et se piquaient de penser librement à ce sujet. En cette occasion, la crainte d'un malheur prochain fut inspirée par un prophète des plus respectables. Un grand chien, noir et maigre, assis la tête haute, hurla lamentablement au moment où les premiers cavaliers sortirent de la grille. Et bientôt après, il aboya d'une manière sauvage et sauta çà et là, semblant vouloir s'attacher au cortège.
« Je n'aime pas cette musique, père Cédric, » dit Athelstan, car il avait l'habitude de lui donner ce titre de respect lorsqu'il lui adressait la parole.
« Ni moi non plus, oncle, » dit Wamba, « car je crains beaucoup que nous n'ayons à payer le ménétrier. »
« Selon moi, » dit Athelstan, sur la mémoire duquel la bonne halle du moine avait fait une impression favorable, car la ville de Burton était déjà célèbre par cette agréable boisson.
« Selon moi, nous ferions mieux de retourner et de rester chez l'abbé jusqu'à l'après-midi. Un voyage n'est jamais heureux si votre route est traversée par un moine, un lièvre ou un chien qui hurle, jusqu'à ce que vous ayez fait un autre repas. »
« En route !» s'écria Cédric avec impatience. « Le jour est déjà trop court pour notre voyage. Quant à l'animal, je le connais. C'est le méchant chien de l'esclave fugitif Gert, déserteur aussi inutile que son maître. »
Disant cela, et se levant sur ses étriers, impatient de l'interruption apportée dans son voyage, Cédric lança son javelot sur le pauvre Fangs. Car c'était Fangs qui, ayant suivi la piste de son maître jusque-là, l'avait perdu une seconde fois, et maintenant se réjouissait de le voir reparaître. Le javelot blessa l'animal à l'épaule, et peu s'en fallut qu'il ne le clouât à terre, et Fangs s'enfuit en hurlant hors de la présence du tan irrité. Le cœur de Gert se gonfla, car il souffrit bien plus de ce meurtre projeté sur son fidèle compagnon que du cruel traitement infligé à lui-même. Ayant fait un vain effort pour porter la main à ses yeux, il dit à Wamba, qui, voyant la mauvaise humeur de son maître, avait eu la prudence de se retirer en arrière.
« Je t'en prie, aie la bonté de m'essuyer les yeux avec le pan de ton manteau. La poussière me fait mal, et ces liens ne me permettent pas de m'aider moi-même d'aucune manière. »
Wamba lui rendit le service qu'il réclamait, et ils chevauchèrent côte à côte pendant quelque temps. Gert gardait un silence rancunier, mais, à la fin, il ne put comprimer davantage ses sentiments.
« Oui, Wamba, » dit-il, « de tous ceux qui sont assez sots pour servir Cédric, toi seul as l'adresse de le distraire avec ta folie. Va donc à lui, et dis-lui que, ni par amour, ni par crainte, Gert ne veut plus le servir. Qu'il me coupe la tête, qu'il me fasse battre de verge, qu'il me charge de fer, mais dorénavant, il ne me forcera plus ni à l'aimer, ni à lui obéir. Va donc à lui, et dis-lui que Gert, le fils de Beowulf, renonce à son service. »
« Assurément, » répondit Wamba, « tout fou que je suis, je ne veux pas exécuter ta sotte commission. Cédric a encore un javelot dans sa ceinture, et tu le sais, il ne manque pas toujours son but. »
« Je me soucie peu, » répondit Gert, « qu'il me prenne pour but. Hier, il a laissé Wilfrid, mon jeune maître, baigner dans son sang. « Aujourd'hui, il a essayé de tuer sous mes yeux la seule créature qui m'ait jamais montré quelque attachement. Par Saint Edmond, par Saint Dunstan, par Saint Withold, par Saint Édouard le Confesseur et tous les autres saints du calendrier saxon. » Car jamais Cédric n'avait juré par aucun autre saint que les saints saxons, et toute sa maison s'était conformée à cette même dévotion. « Jamais je ne lui pardonnerai. »
D'après ma manière de penser, dit le bouffon, qui avait l'habitude de se poser en conciliateur dans la famille,
notre maître n'avait pas l'intention de faire du mal à Fangs, et il ne tentait que de l'effrayer, car, si tu l'as observé, il s'était levé sur ses étriers, comme voulant par là dépasser le but, et il l'aurait fait. Mais Fangs, dans ce même moment, ayant par hasard fait un bond, reçut une égratignure que je me charge, moi, de guérir avec un penny de goudron.
« Si je pouvais le croire, » reprit Gert, Si je pouvais seulement le croire. Mais non, j'ai vu que le javelot était bien dirigé. Je l'ai entendu siffler en l'air avec tout le courroux malveillant de celui qui l'avait lancé. Et quand il se fixa en terre, ce javelot trembla comme de regret d'avoir manqué le coup. Par le port, cher à Saint-Antoine, je renonce à Cédric. Sur quoi, le porcher indigné retomba dans son morne silence que tous les efforts du bouffon ne purent lui faire rompre. Pendant ce temps, Cédric et Athelstan, les chefs de la troupe, conversaient ensemble sur l'état du pays, sur les dissensions de la famille royale, sur les disputes et querelles entre les seigneurs normands, et sur l'espoir qu'il y avait que les Saxons opprimés pussent encore secouer le joug des Normands, ou du moins reprendre une importance et une indépendance nationale pendant les convulsions civiles qui allaient probablement éclater. Sur ce sujet, Cédric était plein d'animation. La régénération de sa race était le rêve favori de son cœur, rêve auquel il eût volontiers sacrifié le bonheur domestique et les intérêts de son fils. Mais, pour accomplir cette grande révolution en faveur des Anglais indignes, il fallait qu'ils fussent unis entre eux et qu'ils agissent sous un chef reconnu. La nécessité de choisir un chef du sang royal saxon était non seulement manifeste en elle-même, mais en outre, elle était une condition solennelle exigée par ceux auxquels Cédric avait confié ses plans et ses espérances. Athelstan avait du moins cette qualité, et bien qu'il ne possédât que peu de vertus et de talents qui le recommandassent comme chef, il avait du moins un aspect agréable. Il n'était pas lâche, il était habitué aux exercices militaires et paraissait enclin à déférer aux avis de conseillers plus sages que lui-même. Surtout, on le savait libéral et hospitalier, et on le croyait d'un bon naturel. Mais, quelles que fussent les prétentions d'Athelstan pour être considéré comme le chef de la Confédération saxonne, un grand nombre de ses compatriotes étaient disposés à préférer à son titre celui de Lady Rowena, qui descendait directement d'Alfred, et dont le père, ayant été un chef renommé pour sa sagesse, son courage et sa générosité, avait laissé une mémoire en grand honneur parmi sa nation opprimée. Ce n'eût pas été chose difficile à Cédric, s'il en avait eu le désir, que de se placer lui-même à la tête d'un troisième parti, aussi formidable pour le moins qu'aucun des autres. Pour contrebalancer la descendance royale des deux autres prétendants, il possédait le courage, l'activité, l'énergie et, par-dessus tout, cet attachement dévoué à sa cause qui lui avait fait donner le surnom de Saxon. Sa naissance ne le cédait à aucune, excepté à celle d'Athelstan et de sa pupille. Toutefois, ses qualités n'étaient pas entachées de la plus légère teinte d'égoïsme, et au lieu de diviser encore davantage sa nation affaiblie en se créant une faction à lui, c'était un point principal du plan de Cédric d'éteindre celle qui existait déjà par un mariage entre Rowena et Athelstan. Un obstacle s'était présenté pour traverser ce projet favori, dans l'attachement mutuel de sa pupille et de son fils, et de là, la cause originelle du bannissement de Wilfrid de la maison de son père. Cédric avait adopté cette mesure sévère dans l'espoir que, pendant l'absence de Wilfrid, Rowena pourrait renoncer à son affection. Mais cet espoir fut déçu. Déception qu'on pourrait attribuer en partie à la manière dont sa pupille avait été élevée. Cédric, pour qui le nom d'Alfred était respectable à l'égal de celui d'un dieu, avait traité le seul rejeton survivant de ce grand monarque avec un degré de déférence tel que peut-être, dans ces temps-là, on en montrait rarement à une princesse reconnue. La volonté de Rowena avait été, dans presque toutes les occasions, la loi de sa maison. Et Cédric lui-même, comme s'il eût décidé que sa souveraineté serait pleinement reconnue, au moins dans ce petit cercle,
paraissait s'enorgueillir en lui obéissant comme le premier de ses sujets. Ainsi élevé dans l'exercice non seulement de sa libre volonté, mais encore d'une autorité despotique, Rowena était, par son éducation première, très portée à la fois à résister aux tentatives faites pour restreindre ses affections et à les répudier. Elle voulait aussi signaler son indépendance dans une affaire, où ordinairement, même les femmes et les jeunes filles qui ont été dressées à l'obéissance et à la soumission sont souvent disposées à renier l'autorité de leurs tuteurs et de leurs parents. Les opinions qu'elle sentait avec force, elle les avouait avec hardiesse. Et Cédric, qui ne pouvait pas se défaire de sa déférence habituelle envers sa pupille, ignorait complètement comment faire valoir son autorité de tuteur. Ce fut en vain qu'il tenta de l'éblouir par la perspective d'un trône illusoire. Rowena, qui était douée d'un esprit sain, considérait son plan comme impraticable et peu désirable, lors même qu'on eût pu l'effectuer. Sans essayer de cacher sa préférence connue pour Wilfrid d'Ivanhoé, elle déclara que, lors même que le chevalier de son choix n'eût pas existé, elle aurait mieux aimé se réfugier dans un couvent que de partager un trône avec Athelstan, qu'elle avait toujours méprisé, et que, à cause des désagréments qu'elle éprouvait à son sujet, elle commençait même à haïr de tout son cœur. Néanmoins, Cédric, qui n'avait pas une idée bien arrêtée sur la constance des femmes, persista à employer tous les moyens en son pouvoir pour amener l'union qu'il désirait, et par laquelle il croyait rendre un important service à la cause saxonne. L'apparition inattendue et romanesque de son fils dans la lice d'Asby lui avait paru, non sans raison, porter un coup mortel à ses espérances. Son affection paternelle, il est vrai, avait pour un moment triomphé de son orgueil et de son patriotisme. Mais tous deux étaient revenus pleins de force, et sous leur double pression, il était maintenant résolu à faire un effort vigoureux pour accomplir l'union d'Athelstan et de Rowena, et à prendre en même temps les autres mesures qui paraîtraient nécessaires pour hâter la restauration de la liberté saxonne. Il débattait donc avec Athelstan ce dernier sujet, se lamentant, comme Hotspur, de rencontrer un homme si faible pour l'exécution d'un projet si honorable. Autant fouetter du lait écrémé. Athelstan, il est vrai, était assez vain, et aimait qu'on lui chatouillât les oreilles avec des récits sur sa haute extraction et sur son droit de succession à l'hommage et à la souveraineté. Mais sa petite vanité se trouvait déjà assez satisfaite en recevant ses honneurs de la part de ses propres serviteurs et des Saxons qui l'approchaient. Il avait bien le courage de combattre le danger, mais il détestait la peine de le rechercher. Il admettait les principes généraux établis par Cédric relativement aux droits des Saxons à l'indépendance, et il était encore plus facilement convaincu de la valeur de son titre à régner sur eux lorsque cette indépendance serait assurée. Cependant, quand il fallait discuter les moyens de soutenir ses droits, il était toujours à Athelstan le nonchalant, le tardif, l'irrésolu, toujours plus porté à différer qu'à entreprendre. Les exhortations vives et passionnées de Cédric produisaient aussi peu d'effet sur son caractère impassible que des boulets rouges tombant dans l'eau, qui ne produisent qu'un faible bruit et quelques fumées, et s'éteignent à l'instant. Lorsque, quittant cette tâche qu'on pourrait comparer à l'action de l'éperon sur un cheval fatigué, ou à celle du marteau sur un fer froid, Cédric revenait à sa pupille Rowena. Il ne recevait dans ses conférences avec elle qu'une satisfaction à peu près semblable, car, comme sa présence interrompait la conversation de la dame avec sa suivante favorite sur la vaillance et le sort de Wilfrid, Elgitta ne manquait jamais de venger à la fois sa maîtresse et elle-même, en rappelant la chute d'Athelstan dans la lice, c'est-à-dire le sujet le plus désagréable dont on put saluer les oreilles de Cédric. Le voyage, pendant cette journée, fut donc pour le brusque Saxon plein de toute espèce de déplaisir et de vexation. De sorte que plus d'une fois il maudit en lui-même le tournoi et celui qu'il avait ordonné, ainsi que sa propre folie d'avoir voulu y assister. À midi, sur la motion d'Athelstan, les voyageurs s'arrêtèrent près d'une source, à l'ombre d'un bois, pour faire reposer leurs chevaux et goûter aux provisions dont l'abbé hospitalier avait chargé une bête de somme. Ce repas dura assez longtemps, et ces diverses interruptions leur rendirent impossible de songer à regagner Rottenwood sans voyager toute la nuit. Conviction qui les engagea à continuer leur route d'un pas plus diligent qu'ils ne l'avaient fait jusque-là. Chapitre 19. Les voyageurs venaient d'atteindre la lisière de la forêt et allaient s'enfoncer dans ses profondeurs, qui passaient pour dangereuses à cette époque, par le grand nombre d'outlaws que l'oppression et la misère avaient poussés au désespoir, et qui habitaient les forêts en bandes considérables pour pouvoir facilement défier la faible police de ce temps-là. Malgré leur avancée du soir, Cédric et ses compagnons comptaient n'avoir rien à craindre de ces rôdeurs, étant accompagnés de 10 domestiques, outre Wamba et Gert, sur l'assistance desquels on ne pouvait compter, vu que l'un était un captif et l'autre un bouffon. On peut ajouter en outre que, en voyageant si tard à travers la forêt, Cédric et Athelstan se fiaient à leur naissance autant qu'à leur courage. Les outlaws, que la sévérité des lois forestières avait réduits à ce genre de vie errante et désespérée, étaient surtout des paysans et des yeomen de race saxonne, et ils étaient généralement disposés à respecter les personnes et les propriétés de leurs compatriotes. Tandis que les voyageurs s'avançaient, ils furent tout à coup alarmés par des cris répétés et qui appelaient à l'aide. Arrivés à l'endroit d'où partaient les cris, ils furent surpris de trouver une litière posée à terre et à côté de laquelle était assise une jeune femme, richement habillée à la mode juive, tandis qu'un vieillard, dont le bonnet jaune annonçait qu'il appartenait à la même nation, marchait, çà et là, avec des gestes qui exprimaient le plus profond désespoir, et se tordait les mains comme accablé sous le poids de quelque étrange désastre. Aux questions réitérées d'Athelstan et de Cédric, le vieux juif ne put, pendant quelque temps, répondre qu'en invoquant successivement la protection de tous les patriarches de l'Ancien Testament contre les fils d'Ismaël, qui venaient l'épée à la main pour les frapper, lui et les siens. Quand il commença à se remettre de cette folle terreur, Isaac d'York, car c'était notre vieil ami, fut enfin en état d'expliquer qu'il avait loué une escorte de 6 hommes à Asby, ainsi que des mules, pour transporter la litière d'un ami malade. Cette escorte était convenue de le conduire jusqu'à la ville de Doncaster. Ils étaient parvenus en sûreté jusqu'ici, mais, ayant été informés par un bûcheron qu'il y avait une forte bande d'outlaws embusqués dans les bois devant eux, les mercenaires, dit Isaac, avaient non seulement pris la fuite, mais encore ils avaient emmené avec eux les chevaux qui portaient la litière, et les avaient laissés, lui et sa fille, dénués de tout moyen de défense et de retraite, en danger d'être pillés et peut-être assassinés par des bandits qu'ils s'attendaient à chaque instant à voir fondre sur eux. « S'il pouvait plaire à vos valeurs, » ajouta Isaac d'un ton de profonde humilité, de permettre aux pauvres juifs de voyager sous votre sauvegarde, je jure par les tables de notre loi que jamais faveur conférée à un enfant d'Israël, depuis les jours de notre captivité, n'aurait été reçue avec plus de reconnaissance. « Chien de juif !» dit Athelstan, dont la mémoire était de cette espèce mesquine qui accumule sans oublier toutes sortes de bagatelles, mais surtout les petites offenses. Ne te rappelles-tu pas comment tu nous as bravés dans la galerie du tournoi? Combat ou fuis, compose avec les outlaws si bon te semble, mais ne nous demande pas de secours. Et s'ils dépouillent des gens comme toi, qui dépouillent tout le monde,
Moi, pour ma part, je les absous comme de fort honnêtes gens. »
Cédric n'approuva pas le refus sévère de son compagnon.
« Nous ferions mieux, dit-il, de leur laisser deux de nos serviteurs et des chevaux pour les reconduire au dernier village. Cela ne diminuera que peu notre escorte. Et avec votre bonne épée, noble Athelstan, et l'aide de ceux qui resteront, ce ne sera qu'une besogne facile pour nous de faire face à un de ces vagabonds. »
Rowena, un peu alarmée en entendant parler d'Outlaw réunis en grand nombre et si près d'eux, appuya fortement la proposition de son tuteur. Mais Rebecca, quittant soudainement sa position abattue et se frayant un chemin à travers les serviteurs jusqu'au pâle froid de la dame saxonne, s'agenouilla à la mode orientale quand on s'adresse à ses supérieurs et baisa le bas de la robe de Rowena. Puis, se levant et rejetant son voile en arrière, elle l'implora au nom du grand Dieu qu'elles adoraient l'une et l'autre. Et par cette révélation de la loi sur le mont Sinaï, à laquelle elles croyaient toutes deux, la supplia de les prendre en commisération et de leur permettre de voyager sous leur escorte.
« Ce n'est pas pour moi que je demande cette faveur, dit Rebecca, ni même pour ce pauvre vieillard. Je sais que dépouiller et injurier notre peuple est une faute légère, sinon un mérite aux yeux des chrétiens. Et peu nous importe que cela soit fait dans la cité, dans le désert ou dans la campagne. Mais c'est au nom de quelqu'un qui est cher à bien des personnes, qui vous est cher à vous-même, que je vous supplie de permettre que l'on transporte ce malade avec soin et sollicitude sous votre protection. Car s'il lui arrivait malheur, vos derniers moments seraient rendus amers par le regret d'avoir repoussé ma prière. »
L'air noble et solennel avec lequel Rebecca fit cette supplication lui donna un double poids aux yeux de la belle saxonne.
« Cet homme est vieux et faible, dit-elle à son tuteur. La fille jeune et belle, leur ami malade et en danger de mort. Bien que ce soit des Juifs, nous ne pouvons, comme chrétiens, les abandonner dans cette extrémité. Qu'on décharge deux de nos mulets et qu'on place leurs bagages en croupe de deux de nos serfs. Les mules pourront transporter la litière et nous avons des chevaux de main pour le vieillard et sa fille. »
Cédric consentit de bon cœur à cette proposition et Athelstan n'y ajouta que la condition qu'il voyagerait à la queue de la troupe, où Wamba, disait-il, pourrait les protéger avec son bouclier de couenne de porc.
« Mon bouclier est resté derrière moi dans la lice, » répondit le bouffon. « C'est un sort qui a été commun à plus d'un chevalier plus brave que moi. »
Athelstan rougit profondément, car telle avait été sa propre destinée le dernier jour du tournoi, tandis que Rowena, qui en était contente au même degré, pour faire compensation à la plaisanterie grossière de l'insoucieux Athelstan, demanda à Rebecca de venir chevaucher à côté d'elle.
« Il ne serait pas convenable que je le fisse, » répondit Rebecca avec une humilité mêlée de fierté, « puisque ma société serait tenue à déshonneur à ma protectrice. »
On avait déjà opéré à la hâte le changement de bagages, car le seul mot « outlaw » mettait chacun suffisamment en alerte, et l'heure avancée rendait ce mot encore plus significatif. Au milieu de la confusion, Gert fut descendu de cheval, et pendant cette opération, il engagea le bouffon à relâcher la corde qui lui liait les bras. Ses liens furent rattachés avec tant de négligence, et peut-être avec intention par Wamba, que Gert n'eut pas de peine à débarrasser complètement ses bras de leurs entraves. Puis, se glissant dans le taillis, il s'échappa. La confusion avait été assez grande, et il se passa quelque temps avant qu'on s'aperçût de l'absence de Gert, car comme il devait, pendant le reste du voyage, se tenir en croupe derrière quelques domestiques, chacun supposait que c'était quelque autre compagnon qu'il avait sous sa garde. Et quand on commença à se dire à l'oreille, les uns aux autres, que Gert avait en effet disparu, on attendait une attaque si imminente de la part des bandes d'outlaws qu'on ne jugea pas convenable de faire grande attention à cette circonstance. Le sentier par lequel la troupe s'avançait était devenu si étroit qu'on ne pouvait passer sans être incommodé plus de 2 cavaliers de front. Ce sentier descendait dans un vallon traversé par un ruisseau dont les bords étaient marécageux et couverts de petits saules. Cédric et Athelstan, qui marchaient en tête de l'escorte, virent le danger d'être attaqués dans cette passe. Mais comme ils n'avaient ni l'un ni l'autre beaucoup d'expérience de la guerre, il ne leur vint pas à l'esprit de meilleur expédient pour prévenir ce danger que de s'avancer dans le défilé aussi vite que possible. Marchant donc sans beaucoup d'ordre, ils venaient de traverser le ruisseau avec quelques-uns de leurs serviteurs quand ils furent attaqués par devant, par derrière et sur les flancs avec une impétuosité à laquelle, dans leur position confuse et non préparée, il était impossible d'offrir une résistance efficace. Le cri de « Dragon blanc ! Dragon blanc ! Saint-Georges pour la joyeuse Angleterre !» cri de guerre adopté par les assaillants comme appartenant à leur faux rôle d'outlaw saxon, se fit entendre de tous côtés, et de tous côtés aussi parurent les ennemis avec une rapidité d'attaque qui semblait multiplier leur nombre. Les 2 chefs saxons furent faits prisonniers en même temps, et chacun avec des circonstances ressortant de leur caractère. Cédric, au moment où l'ennemi parut, lança le javelot qui lui restait, lequel, mieux dirigé que celui qu'il avait lancé à Fang, cloua l'homme contre un chêne qui se trouvait par hasard derrière lui. Ayant réussi cette fois, Cédric poussa son cheval sur un second en tirant son épée, puis frappa avec une fureur si irréfléchie que son arme rencontrant une forte branche qui pendait au-dessus de sa tête, il se trouva désarmé par la force de son propre coup. Il fut sur le champ fait prisonnier et arraché de son cheval par 2 ou 3 bandits qui fondirent sur lui. Athelstan partagea sa captivité, son cheval ayant été saisi par la bride et lui-même démonté bien avant qu'il pût tirer son épée et se mettre en état de défense. Les serviteurs, embarrassés dans les bagages, surpris et terrifiés par le sort de leur maître, devinrent une proie facile pour les assaillants. Tandis que Lady Rowena au centre, le juif et sa fille, à la queue de la cavalcade, subirent le même sort. De toute la suite, personne n'échappa, excepté Wamba, qui montra en cette occasion beaucoup plus de courage que ceux qui se piquaient de plus d'esprit. Il s'empara d'une épée appartenant à l'un des domestiques, qui allait la tirer d'une main irrésolue, en frappa de tous côtés comme un lion, repoussa plusieurs ennemis qui s'approchaient de lui, et fit un effort courageux, quoique inutile, pour secourir son maître. Se trouvant accablé, le bouffon, à la fin, se jeta à bas de son cheval, s'enfonça dans le taillis, et à la faveur de la confusion générale, s'éloigna du théâtre du combat. Cependant, le vaillant bouffon, dès qu'il se vit en sûreté, se demanda plus d'une fois s'il ne devait pas revenir et partager la captivité d'un maître à qui il était sincèrement attaché. « J'ai entendu des hommes parler du bonheur d'être libre, » se dit-il en lui-même. « Mais je voudrais que quelque sage vînt m'apprendre comment employer ma liberté maintenant que je l'ai acquise. » Il prononçait ces mots tout haut. Une voix très rapprochée de lui répondit d'un ton bas et mystérieux. « Wamba !» Et en même temps, un chien qu'il reconnut pour être Fang sauta sur lui et le caressa. « Gert !» répondit Wamba avec la même précaution. Et le porcher parut immédiatement devant lui. « Qu'y a-t-il ? » demanda celui-ci avec empressement. « Que signifient ces cris et ce cliquetis d'épée ?»«
C'est seulement un tour de la fortune, » dit Wamba. « Ils sont tous prisonniers. »«
Qui ça, prisonnier ?» s'écria Gert avec impétuosité.
« Monseigneur, Madame et Athelstan, Andiber et Oswald. »«
Oh, nom de Dieu !» reprit Gert. « Comment ont-ils été faits prisonniers ? Et par qui ?»
« Notre maître a été trop prompt à se battre, » dit le bouffon. « Athelstan ne l'a pas été assez,
et tous les autres ne l'ont pas été du tout, de sorte qu'ils sont tous les prisonniers d'habits verts et de masques noirs, et tous couchés pêle-mêle sur le gazon, comme les pommes sauvages que vous faites tomber pour vos cochons. Et en vérité, j'en rirais volontiers, ajouta l'honnête bouffon, si je pouvais m'empêcher d'en pleurer. Et là-dessus, il se mit à verser des larmes qui n'étaient pas feintes. La physionomie de Gert s'anima. « Wamba, dit-il, tu as une arme, et ton cœur fut toujours plus fort que ton cerveau. Nous ne sommes que deux, mais une attaque soudaine de la part de deux hommes résolus peut faire beaucoup. Suis-moi. »« Ouh, et dans quelle intention ? » dit le bouffon. « À la rescousse de Cédric. » « Mais vous avez renoncé tout à l'heure à son service, » dit Wamba. « C'est parce qu'alors, » dit Gert, « il était heureux. Suis-moi. » Le bouffon allait obéir quand un troisième personnage apparut tout à coup et leur ordonna de ne pas bouger. D'après sa mise et ses armes, Wamba conjectura que c'était un de ces outlaws qui avait attaqué son maître. Mais, bien qu'il ne portât pas de masque, le baudrier étincelant qui pendait à son épaule et le riche corps de chasse qu'il supportait, ainsi que l'expression calme et majestueuse de sa voix et de son maintien, lui fit, malgré l'obscurité, reconnaître Locksley, le yeoman qui avait été vainqueur avec des conditions si désavantageuses dans le concours pour le prix de l'arc. « Que signifie tout ceci ? » dit-il. « Et qui est-ce qui s'avise de dépouiller, de rançonner et de faire des prisonniers dans cette forêt ?»«
Vous pouvez voir leurs habits là-bas, » dit Wamba, « et reconnaître si ce sont ceux de vos enfants ou non, car ils ressemblent aux vôtres comme une cosse de bois ressemble à une autre cosse. »«
Je veux m'en assurer sur le champ, » répondit Locksley. Et je vous ordonne, au péril de votre vie, de ne pas bouger de l'endroit où vous êtes jusqu'à mon retour. Obéissez, cela n'en vaudra que mieux pour vous et vos maîtres. Attendez, il faut que je me rende aussi semblable que possible à ces hommes. »
En disant cela, il déboucla son baudrier avec le corps de chasse, ôta une plume de son bonnet et donna le tout à Wamba. Ensuite, il tira de sa poche un masque noir et, leur réitérant l'ordre de rester tranquille, il alla mettre à exécution son plan de reconnaissance.
« Faut-il rester ici, Gert ? » dit Wamba. « Ou faut-il jouer des jambes ? Dans ma folle pensée, il avait trop la mine d'un voleur pour être un honnête homme. » « Que ce soit le diable, » dit Gert, « si ça lui plaît. Nous ne perdrons rien à attendre son retour. S'il appartient à ces brigands, il leur aura déjà donné l'alarme, et nous ne gagnerions rien à combattre ou à nous sauver. De plus, j'ai dernièrement éprouvé par expérience que les voleurs fiéfés ne sont pas les hommes les plus méchants auxquels on puisse avoir affaire en ce monde. »
Le yeoman revint au bout de quelques minutes. « Ami Gert, dit-il, je me suis mêlé parmi ces hommes, et j'ai appris à qui ils appartiennent et où ils vont. Il n'y a pas, je pense, de danger qu'ils en viennent à des violences contre leurs prisonniers. En ce moment, ce serait pure folie à trois hommes de vouloir les attaquer, car ce sont de bons hommes de guerre, et comme tels, ils ont placé des sentinelles pour donner l'alarme en cas de surprise. Mais j'espère bientôt réunir une force suffisante pour défier toutes les précautions. Vous êtes tous deux des serviteurs, et, comme je le pense, des serviteurs fidèles de Cédric le Saxon, l'ami des droits des Anglais. Les mains anglaises ne lui feront pas défaut dans cette extrémité. Venez donc avec moi jusqu'à ce que j'aie réuni mon monde. » En disant ces mots, il s'élança au travers de la forêt, suivi du bouffon et du porcher. Wamba n'était pas d'humeur à voyager longtemps en silence. « Je pense, » dit-il en regardant le baudrier et le corps de chasse qu'il portait toujours, « que j'ai vu partir la flèche qui a gagné ce prix, et cela depuis Noël. »
« Et moi, » dit Gert, « je pourrais jurer par le ciel que j'ai déjà entendu pendant la nuit, aussi bien que pendant le jour, la voix du brave yeoman qui l'a gagné, et que la lune n'a pas vieilli de 72 heures depuis ce moment-là. »
Mes honnêtes amis, répliqua le yeoman, il importe peu de savoir qui je suis et ce que je fais. Si je délivre votre maître, vous aurez raison de me considérer comme le meilleur ami que vous ayez jamais eu. Et que je sois connu sous un nom ou sous un autre, que je sache tirer l'arc aussi bien ou mieux qu'un vacher, ou que ce soit mon plaisir de me promener au soleil ou au clair de lune, ce sont là des affaires qui ne vous concernent pas, et dont, par conséquent, vous n'avez pas besoin de vous occuper.
« Nos têtes sont dans la gueule du lion !» dit Wamba tout bas à Gert. « Tirons-nous de là comme nous pourrons !»«
Chut ! Silence !» dit Gert. « Ne l'offense pas par ta folie, et je crois fermement que tout ira bien. »